Vous écoutez
RMC.
7h12 sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous. La tempête Nils qui a privé jusqu'à 900 000 foyers d'électricité hier. On en est encore à un demi-million ce matin avec des vents jusqu'à qui dépassaient les 160 km/h, des crues majeures dans le sud-ouest. Au-delà de l'urgence, il y a une question qui dérange. Est-ce que notre pays est prêt à affronter des catastrophes qui peu à peu deviennent la norme? Bonjour Olivier Moustakakis.
Bonjour Monsieur
Média. Vous êtes directeur général d'Assureland. Affronter les catastrophes, les aléas climatiques et s'en relever aussi. C'est pour ça qu'on a appelé un assureur ce matin. Pour vous, les collectivités doivent prendre leurs responsabilités. C'est votre parti pris. D'abord, d'un mot, ces catastrophes, ces aléas, de moins en moins exceptionnels, finalement, la norme est en train de changer.
Alors clairement, on change de paradigme, parce que l'assurance est faite pour couvrir un aléa. Et on peut se poser la question de la notion d'aléa, quand en effet, de manière récurrente et de plus en plus fréquente, chaque année, plusieurs fois par an, on a des inondations aux mêmes endroits, on a des dégâts qui sont causés aux mêmes habitations, etc.
Oui, parce qu'étymologiquement, un aléa, c'est quelque chose qu'on n'attend pas. Là, vous dites
exactement.
Que chaque année, il va falloir qu'on
s'y attende. Et c'est de plus en plus prévisible. Voilà. C'est ça aussi le problème.
Bon, ça coûte. Ce sont énormément de frais de remboursement et donc de tarifs assurantiels qui vont continuer d'augmenter.
Alors, les tarifs flambent, clairement. On est sur une tendance à la hausse depuis de nombreuses années, malheureusement. Le vrai sujet, c'est la question qui va se poser et qui se pose aujourd'hui, c'est l'assurabilité dans l'avenir de certains territoires, les territoires les plus exposés aux risques climatiques. On peut se poser la question légitime de savoir s'ils seront toujours assurables ou pas. Alors, on a la chance en France d'avoir un double système d'indemnisation. Vous avez votre contrat d'assurance classique, plus un régime légal, le régime des catastrophes naturelles, qui va pouvoir intervenir dans le cadre, par exemple, des inondations, de la sécheresse, du risque de sécheresse pour ce type d'événement. Le vrai sujet, c'est que les primes augmentent. L'État a encore augmenté la surprime pour abonder le fonds du régime catastrophe naturelle. Il a passé la surprime de 12 à 20% au 1er janvier 2025.
Il faut bien l'abonder, ce fonds, en même temps.
Exactement.
Parce que là, je voyais que ça vous a coûté de 4 à 4,5 milliards d'euros par an aux assureurs. Entre
alors, les assureurs, aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, on était sur un montant à peu près d'un milliard et demi par an, en moyenne. Aujourd'hui, on est plutôt à 6 à 6 milliards et demi chaque année pour les risques climatiques.
Ok, donc très clairement, il faut abonder ce fonds. À la fin, de toute façon, ce sera évidemment l'assuré qui va payer. Vous parliez de l'assurabilité de certains territoires. On a beaucoup parlé de l'Aude hier, parce que la tempête Nils y est passée, du vent, beaucoup de pluie. J'ai souvenir qu'on a beaucoup parlé de l'Aude pour la sécheresse et les incendies. Il y a des territoires comme ça où...
Alors, il y a des zones qui sont très exposées.
En fait, j'allais vous poser la question autrement. On va toujours pouvoir être assuré? Quand j'achète une maison, je pourrais toujours l'assurer?
Alors la réponse, c'est l'enjeu justement. Et la réponse aujourd'hui, c'est oui. Aujourd'hui, il n'y a pas de zone non assurable en France, heureusement, sur le territoire français. Le vrai sujet, c'est que les primes, à un moment donné, ne peuvent pas monter au ciel. D'accord. Donc il faut mettre en œuvre des mesures de prévention. Et on limite souvent d'ailleurs le rôle de l'assurance à l'émission d'un tarif, l'encaissement d'une cotisation et le remboursement d'un sinistre. L'assurance, c'est beaucoup plus que ça en fait. L'assurance, c'est vraiment un acteur clé, justement, dans l'adaptation et dans la résilience, justement, au changement climatique, c'est-à-dire qu'ils financent énormément de mesures de prévention. D'accord? Il y a des mesures très simples. Des personnes qui sont inondées, il suffit de les équiper d'un bâtard d'eau, ça coûte 70-100 euros, pour bloquer mécaniquement l'entrée de l'eau à l'intérieur des maisons. Il y a énormément de mesures de prévention.
Vous préférez financer ça que la réparation des dégâts derrière?
Tout l'enjeu, c'est ça pour l'assurance, c'est de prévenir avant d'indemniser, et de réduire surtout la facture d'indemnisation.
Vous en appelez aux autorités locales. Vous dites qu'il va falloir un peu plus de responsabilité, notamment de la part des élus locaux. Ça tombe bien, on est à quelques semaines des municipales.
Alors, je pense que c'est tout le monde doit prendre une responsabilité. C'est-à-dire aussi bien le particulier, parce qu'il faut qu'il développe aussi une culture du risque. Ce qui essaie de faire les assureurs auprès de leurs assurés. D'accord, pour s'adapter justement et mettre en œuvre des mesures de prévention. Quand il y a une tempête, typiquement, les assureurs alertent leurs clients en disant attention, rangez votre mobilier de jardin parce qu'en cas de tempête, ça peut se projeter contre vos baies vitrées et endommager votre maison. Protégez votre habitation quand il y a un risque d'inondation qui arrive, parce qu'on le sait maintenant, on arrive à le prévoir. D'accord. Et au niveau des collectivités locales, moi, il me semble encore aberrant qu'en 2026, on signe encore des permis de construire dans des zones inondables.
On signe des permis de construire beaucoup, Olivier Moustakakis, vous le voyez, vous assurez ces habitations.
Tout à fait. Donc, à un moment donné, il faut que chaque partie se responsabilise et il faut arrêter un peu cette urbanisation un peu aveugle, qui a été, c'est pour ça aussi qu'on a des montants de dégâts de plus en plus coûteux, c'est le fruit aussi de 30 ans d'urbanisation folle où on a construit dans des zones qu'on savait inondables, qu'on savait submersibles et que la mer pouvait atteindre, etc.
Puis alors, je découvre une autre chose, ce que vous dénoncez comme une absurdité, reconstruire à l'identique des habitations sinistrées, là où elles ont été sinistrées, même si elles seront, on le sait, à nouveau inondées.
Alors ça, ça fait partie d'un article, mais c'est le législateur qui doit le modifier, hein, du code des assurances, qui impose à l'assureur, en fait, de reconstruire à l'identique. Donc je vais vous donner un exemple très simple. Vos circuits de prise électrique, d'accord, qui sont toujours en bas de mur,
ouais.
D'accord, on sait qu'à la prochaine inondation, ils vont être encore atteints. Il suffit juste de mettre les prises quand on reconstruit, et quand on reconstruit le schéma électrique, en hauteur, à 20 cm, 50 cm de haut. Ça participe de mesures très simples. Le problème, c'est qu'il faut que le législateur s'empare de ce sujet.
Parce que vous, pardon, quand vous avez un sinistré, vous devez lui remettre ses prises exactement au même endroit.
Alors, les assureurs sont obligés de reconstruire à l'identique.
D'accord.
C'est le code des assurances qui l'impose. Donc il faut que le législateur modifie cet article. Il y a énormément de choses à modifier. Vous avez aussi l'État qui a budgétisé le fonds Barnier. Le fonds Barnier, c'est un fonds qui était là pour financer des mesures de prévention, pour financer des expropriations pour les maisons les plus exposées sur certains territoires, sur certaines zones de risque. Il a été budgétisé à partir de 2021. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le budget, c'est l'État qui fixe chaque année jusqu'à quel montant on peut mettre de l'argent sur ce fonds. Alors que ce fonds, automatiquement, il était alimenté par un pourcentage qui était pris déjà sur la prime catastrophe naturelle. Donc chaque année, il grossissait. Quand la prime augmente, son allocation grossissait. Ben là, cette année, il aurait dû être à 450 millions. L'État l'a bloqué à 300 millions.
Oui, responsabilité voilà. De l'État. Alors ça, c'est au niveau national. On va reparler des élus locaux dans un instant. Mais d'abord, un témoignage qui vient du Gers, je crois, Victor, sur le WhatsApp RMC.
Exactement, c'est Hicham qui habite dans le Gers, dans un tout petit village. Il est à Tougé et il nous décrit ce qu'il a vécu hier. Des arbres qui ont coupé les câbles électriques, plus d'électricité jusqu'à tard dans la soirée, pas d'école pour les petits. Il nous dit, les champs dans le Gers se sont transformés en mer Méditerranée, donc d'énormes dégâts dans un tout petit village du Gers.
Non, il y a quand même une réalité, hein. Il y a aussi une réalité économique à ces intempéries. Je pense à l'activité économique des entreprises qui ne peuvent plus bosser.
Les agriculteurs, les récoltes qui sont dévastées, les entreprises aussi qui sont impactées.
Oui, on a des champs qui sont transformés en pédiluve en ce moment-là. Oui. Ça aussi, ça vient se rajouter au coût
des assurances. Ça fait partie des missions de l'assurance. Et ils testent énormément sur la végétalisation des sols, notamment le risque sécheresse, parce qu'on parle du risque inondation. Le risque inondation, paradoxalement, il ne coûte pas très cher. Comparativement au risque sécheresse. Sécheresse, les fissures dans votre maison, quand il y a un retrait gonflement des sols argileux, c'est 1 milliard à peu près par an. Alors que l'inondation, c'est 300 millions. D'accord ?
Très clairement.
Voilà, donc là, il y a des tentatives qui sont mises en œuvre, des expériences qui sont en cours, d'accord ? Où on s'est aperçu qu'en fait, il fallait végétaliser les sols de manière différente pour justement limiter ce risque. Donc il y a énormément de mesures qui sont mises en œuvre. Donc on ne pourra pas éviter une inondation. En revanche, on peut limiter le coût. C'est tout l'enjeu.
Merci beaucoup Olivier Moustakakis. Et
merci.
Cette réalité du réchauffement climatique dont on parlait au futur, là c'est le présent, là c'est très concret et on le chiffre avec vous.
C'est une réalité, oui.
On le chiffre avec vous en direct ce matin, directeur général d'Assureland. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions et bon courage à ceux qui sont traversés par la tempête Niels, qui l'ont été. C'est terminé la tempête, Géraldine, je parle sous votre contrôle.
Effectivement, on a toujours les conséquences avec les crues qui continuent encore aujourd'hui et ça, les niveaux vont rester très hauts encore plusieurs jours.
Et on attend vos témoignages ce matin, que vous soyez sinistrés ou simplement en train d'observer ce qui se passe autour de vous ce matin au 32-16. Merci beaucoup.